Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Une île, un illusionniste et des Kabyles ce samedi dans Plan Large avec Damien Manivelle, Sonia Kronlund et Karim Aynouz et encore Sophie Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Un plan large qui repousse encore un peu plus loin les frontières indécises entre documentaire et fiction, entre le réel et sa représentation, entre ce qu'on voit et croit et les conditions de sa fabrication. En témoigne Damien Manivelle qui, avec L'île, nous donne à voir tout en même temps le fantôme bien réel d'un film qui n'a pas existé et l'aventure collective qui a présidé à sa création. Il faudrait presque ne pas en dire plus, tant la grâce mystérieuse qui habite cette variation chorégraphiée sur la fin de l'adolescence, un soir d'été, demande à être préservée. Nous nous y essaierons tout de même dans un instant avec ce grand cinéaste du geste qu'est l'auteur, pour ne parler que de ses précédents films, des Enfants d'Isadora et de Magdala. Nous irons ensuite avec Sonia Kronlund, voix bien connue des auditeurs de France Culture et amateur de ses pieds sur terre, sur les traces vertigineuses d'un imposteur de génie qui aurait pu être acteur ou cinéaste s'il n'avait utilisé ses talents pour duper des femmes aux quatre coins de la planète. C'est L'Homme aux mille visages, son deuxième long métrage après Nothing Wood, qui, tout documentaire qu'il soit, ne dédaigne pas d'utiliser les armes de la fiction pour contrecarrer celles de son sujet. Dans le journal du cinéma, Karim Aynouz, le cinéaste brésilien au nom kabyle, nous racontera comment il a laissé son inconscient diriger Marin des montagnes, le film qu'il a tourné en Algérie à la recherche de ses origines paternelles. Et en fin d'émission, Sophie Catherine Gallet exhumera un film américain de 1971, film inédit jusqu'à aujourd'hui en France comme aux États-Unis et à cheval lui aussi entre fiction et documentaire, L'étonnant Bushman de David Schickeler. Mais pour l'heure, n'oubliez pas vos maillots, on est quelque part en Bretagne, au bord de l'océan et quelque chose s'achève ou commence.
C'était la dernière soirée de l'été, la veille de mon départ à Montréal, avec mes amis Olga, Damo, Ninon, Céleste, Jules et mon frère Youn. On avait décidé de continuer la soirée sur l'île. Vous me manquez.
Bonjour Damien Manivelle.
Bonjour.
Vous me manquez, dit Rosa, cette voix off qui installe d'emblée deux temporalités, au moins, on verra plus tard qu'il y en a plus, entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'était une des idées de départ de ce film, L'île, rajouter un deuxième degré de mélancolie qui se surajoute à cette dernière soirée entre amis avant un départ.
Ouais, bah comme on l'a entendu, je voulais filmer un souvenir, mais le filmer au présent. Et j'avais surtout cette idée de départ, de confronter une musique qui soit extrêmement lancinante, circulaire comme ça, sous forme de boucle, que je composerais donc, et d'y accoler une énergie adolescente, forte, puissante, à la fois extrêmement joyeuse et triste à la fois.
À la fin de l'adolescence, le dernier été, c'est devenu un genre en soi, du teen movie, du coming of age movie, comme on l'appelle aux États-Unis. C'est précisément une matière que vous aviez envie de travailler?
Disons que c'est une... comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qu'on reconnaît, c'est une forme qu'on connaît. Et ce cliché, en fait, partir de là, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des étapes... Il y a des étapes obligatoires, il y a une sensation de temps réel et une intensité. Et je me souviens que je disais toujours aux sept adolescents qui jouent dans le film de ne jamais laisser redescendre cette intensité et d'être toujours dans la préservation de leur énergie. Donc eux, ils vivent une dernière fête comme ça de fin d'été. En même temps, c'est leur première expérience de tournage. Donc, il y a un parallèle entre les deux qui se fait.
Voilà, c'est la fin et le début en même temps. Filmer un groupe, c'est assez nouveau chez vous. Et c'était, si on reprend pour l'ancien danseur que vous êtes, des métaphores de danse, vous avez plutôt filmé des duos, des solos, Magdala récemment, ouais. des rencontres entre deux personnages. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous attaquer au groupe?
C'était justement j'aime bien de film en film essayer quand même s'il y a des choses qui se retrouvent, et notamment cette question de la solitude. Ça fait des années que j'ai envie de filmer un groupe, ça fait des années que j'ai envie de me confronter à ça. Et là, il me semblait que c'était le moment. J'avais aussi envie de changer le processus de création et de travailler vraiment en collaboration avec ces adolescents, avec ces jeunes comédiens et comédiennes. Et du coup, on s'est isolés pendant 2 semaines en Bretagne sur une plage et dans une salle de répétition pas très loin de la plage. Et le principe, c'était tous ensemble, on va construire un film sous forme de réunion qu'on avait le matin, où on discutait des personnages, de l'écriture, où le film pouvait aller. Ils ont beaucoup donné de leur propre écriture, de leurs souvenirs, des éléments de leur vie. Donc ils ont vraiment mélangé des choses à ce que je leur proposais.
Oui, parce qu'il fallait créer un groupe qui ne se connaissait pas au départ.
Exactement. Alors à part Rosa Berder et Youn Berder qui sont frères et sœurs, c'est mes voisins, donc je les connais bien. Sinon, c'est des gens, des adolescents et des jeunes gens que j'ai rencontrés par audition ou que un ami connaissait ou une amie connaissait. Donc il a fallu constituer un groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce challenge que je leur propose de s'isoler, de créer comme ça un long métrage en 2 semaines, ou en tout cas de l'écrire, ça les a mis tout de suite dans une sorte de responsabilité et de devoir d'être proches les uns des autres, d'être, comme je le disais, intense. Et je pense qu'en une soirée ensemble et une répétition, ils étaient potes et ils le sont encore maintenant. Donc,
alors, ce qui est passionnant, c'est que ces répétitions, ce travail de création, on le voit dans le film. Ça se mêle dans une continuité du geste, du texte aussi, parfois à la diégèse du film, c'est-à-dire ce qui se passe entre les personnages. Alors, pour bien comprendre pourquoi, il faut revenir à la genèse de ce film, qui n'est pas exactement celui que vous rêviez au départ, Damien Manivelle.
Voilà, alors donc je continue par rapport à ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire que l'idée c'était qu'on se réunisse tous en Bretagne pendant 2 semaines sur cette plage, qu'on écrive ensemble et qu'on répète ce film en partant de mes idées aussi. Et ensuite, normalement, j'étais censé avoir tout l'été pour améliorer le scénario et faire le tournage fin août. Alors la particularité de ce que je leur proposais comme projet, c'était un plan séquence, donc un seul plan d'1h20, 1h30, à l'aube. Et c'est ça donc qu'on a répété pendant 2 semaines, ce fameux plan séquence qu'on était censé tourner fin août. Or, quelques semaines après cet atelier de 2 semaines de création, j'ai appris qu'on n'avait pas l'argent pour faire le tournage et j'ai été obligé d'abandonner le projet et donc de prévenir l'équipe et puis les acteurs que ce film n'aurait jamais lieu. Donc c'était vraiment horrible. C'était vraiment très difficile, sachant qu'on avait tout donné pendant 2 semaines. Et pour ma part, en tout cas, le projet était mort et était abandonné. Et je pense que c'était 4 mois plus tard où mon producteur, donc Martin Berthier, m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, ce serait intéressant que tu revois un peu les rushs et que tu peut-être réfléchisses à en faire quelque chose.
Parce que moi, ces répétitions ont été filmées au départ.
Alors, tout avait été filmé, tout a été enregistré, nos réunions de travail sont enregistrées. J'avais énormément de documents, énormément de matière, qui était de la matière dont j'avais besoin pour réfléchir au projet et l'écrire. Mais ce coup de fil de Martin, ça m'a fait du bien parce que j'en rêvais la nuit. En fait, je rêvais que j'étais en tournage. J'arrivais pas à l'abandonner, ce projet, inconsciemment.
Et lui-même ne voulait pas être abandonné, probablement.
Sans doute, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, je suis allé dans le. Du coup, les idées sont arrivées assez vite après parce que ça a répondu à peut-être un besoin que j'avais. Et je me suis dit, je vais raconter coûte que coûte l'histoire qu'on a écrite tous ensemble. Mais avec les matériaux qui sont des matériaux bruts, toutes les traces en fait que j'avais à ma disposition, des dessins, des enregistrements sonores, des vidéos à l'iPhone, et je vais tout mélanger, je vais réussir à raconter cette histoire coûte que coûte.
Viens plus, Rosa.
Mais quoi? Non,
À la deux.
Mais c'est tellement pas drôle, la
figure
depuis le début.
Mais vous vous battez là?
Mais
pourquoi vous vous battez?
C'est toi qui m'as fait moi. C'est moi qui m'as fait.
Qu'est-ce qui se passe là?
Recule encore, Rosa, et insultez-les.
Petite embrouille entre amis sur la plage, et cette voix qu'on entend dire à Rosa, Rosa Berder, recule encore Rosa et insulte-les, c'est la vôtre, Damien Manivelle. Mais alors, la beauté du cinéma, c'est qu'on a beau vous entendre les diriger à vue, hein, comme on dirait au théâtre, ça ne nous empêche pas de croire aux personnages, à ce qui leur arrive, et c'est d'autant plus émouvant que sous le personnage, on voit l'acteur qui l'interprète, qui le cherche en même temps, on voit le travail. Alors comment est-ce que vous avez tressé au montage ces dimensions différentes entre la répétition, le jeu, l'interprétation? Damien Manivelle.
Bah, l'idée, donc, moi, quand j'ai découvert ces rushs de travail, je les avais oubliés, en fait. Et il y en a aussi que j'avais pas vu au moment du tournage, parce que j'avais pas le temps de tout voir. Donc j'ai découvert tout ça, et c'était comme si on m'avait confié les archives d'un tournage et qui s'était jamais fait, et qu'on m'avait dit, vas-y, fais quelque chose avec. Donc j'avais évidemment l'idée de la voix off depuis le début, j'avais ce récit qui était tenu. Après, le parti pris fort qu'il fallait vérifier que ça marche, c'était d'abolir les frontières entre les espaces, les temporalités, et de se dire que ça allait tenir sur une continuité et sur une intensité, en fait, des comédiens. Et étrangement, ça a tout de suite marché au montage. Ça a tout de suite fonctionné, en fait, cette idée. Ça aurait pu faire un peu rêve ou montage alterné, ça aurait pu être faire un peu conceptuel ou théorique. Or, pas du tout. Il y avait tout de suite une émotion. Ça, c'est dû, je crois, à l'intensité des comédiens. Et très tôt, quand j'ai commencé le montage, je me suis rendu compte qu'il fallait inclure aussi l'atmosphère qui entoure ces comédiens. Surtout, pas chercher l'illusion, pas à cacher. Donc, on voit des membres de l'équipe, on entend le souffle du chef opérateur, parfois il fait des remarques, et on m'entend et on me voit parfois diriger les comédiens. Et c'est étrange parce que, comme vous dites, on est à la fois dans la fiction et en même temps, on voit bien que c'est faux. Mais il y a une telle application, il y a une telle volonté de tous et toutes de chercher une émotion. On est vraiment à la recherche d'une émotion. Bah, qu'en fait, ça met le spectateur face à une question de est-ce que tu veux rentrer dans le film? Est-ce que tu as envie d'y croire ou pas? Et si on se dit qu'on a envie d'être avec eux et d'y croire, bah, on rentre à fond dans le film. Et presque, bizarrement, parfois, j'ai l'impression qu'on y croit d'autant plus que c'est faux.
Oui, parce qu'on est, comme je disais, à la fois avec le personnage et avec le comédien ou la comédienne qui l'interprète et qui cherche aussi, et vous dévoilez quelque chose qu'on sentait dans vos films précédents, mais qui là se voit, puisque c'est aussi le making-of de ce film, c'est la recherche du geste précis, qu'on pourrait croire complètement improvisé quand on verra le film terminé, qui peut être une façon d'enlacer son partenaire, une façon de fumer une cigarette. C'est très important chez vous, ce geste-là.
Oui, bah ça, je pense que c'est je l'hérite de ma pratique de la danse, mais c'est vrai que tous mes films sont exactement comme celui-là si on en montrait l'envers du décor, en fait. Les tournages sont toujours comme ça. Je parle beaucoup et j'essaye de diriger pendant la prise les comédiens sur leur gestuelle, sur leur regard, la hauteur de leur regard, etc. Donc c'est un peu chaotique. Mais j'essaie de le cacher en général pour que le film ait l'air maîtrisé. Sauf que là, il a fallu accepter. C'était pas une décision facile, mais il a fallu accepter de montrer la fabrique. Et effectivement, alors ils sont tous les sept acteurs et actrices. Ils sont tous. Ils ont tous un intérêt pour la danse. C'est ce que je leur avais demandé quand j'avais fait l'audition. Je leur ai demandé qu'ils aient envie d'improviser, qu'ils aient envie de partager des idées aussi, et qu'ils aient un intérêt pour la danse. Donc toujours très présent dans mon cinéma. Et là, dans ce film, il y a un tel besoin de contact, de regard, de sourire, de toucher, d'étreinte. C'était un motif, l'étreinte, que de toute façon j'avais en tête et que je voulais travailler, quoi.
C'est un motif qui croise aussi beaucoup d'interrogations d'aujourd'hui, notamment la question de jouer une scène de sexe entre deux personnages. On va se demander non seulement comment la jouer, on va même aller chercher un tuto sur Internet. À un moment, c'est un peu une blague, mais effectivement, vous posez les mêmes questions qu'eux sur ces questions qui sont très importantes aujourd'hui.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est des. Bah, si on prend par exemple l'idée de la scène de sexe, c'est vraiment une scène de cinéma. On essaye de faire comme au cinéma, d'une certaine façon. Et ce qu'on voit, c'est que donc Rosa et Damo et nous, donc on cherche en fait comment faire. C'est pas des scènes que j'ai eu l'habitude de faire dans mes films. Donc on cherche ensemble. Et c'est là où on voit le côté amateur, mais dans le bon sens du terme, ou en tout cas artisanal, d'une recherche en cours. Et là, ce qui se passe dans le film, c'est que quand la scène est jouée, elle est d'une intensité magnifique, en fait. Et cette intensité, c'est juste la croyance et l'investissement des comédiens. Mais on joue tout ça pour de faux. Mais si on y met de l'intensité, ce qui ne veut pas dire que c'est pas maladroit par moment, parce qu'en fait, ce que le film fait, c'est qu'il accepte aussi toutes les scories, toutes les maladresses. Et je trouve que ça nous met à un endroit de spectateur qui est... J'ai essayé déjà ça dans mes autres films, mais dont moi, je me sens proche, en tout cas, d'accepter qu'il y ait des maladresses, mais que, je sais pas, il y a une telle implication des comédiens et de l'équipe autour que ça nous touche, en fait.
D'avoir fait ce film qui s'apparente à un sous-genre, là encore, du cinéma, ça pourrait être les Appunti de Pasolini, ça pourrait être Kiarostami qui fait des repérages d'un film, le film lui-même, dans ABC Africa. Est-ce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives pour votre cinéma, Damien Manivelle?
Très honnêtement, pour le moment, j'en sais rien, parce que c'est tout frais, la sortie en ce moment, je suis en train de préparer un autre film, mais... les choses se font toujours tellement intuitivement et c'est peut-être d'ailleurs un défaut que j'ai, mais je me laisse vraiment porter, en fait. Je me laisse vraiment porter. Les projets, ils vont partir d'une personne, d'une expérience personnelle, d'une histoire qu'on me raconte. Je suis absolument pas dans le calcul et pour l'instant, j'ai toujours fait mes films de cette façon. Et donc, je tiens à garder cette innocence d'une certaine façon, et donc le prochain projet, je sais ce que c'est, mais comment est-ce qu'il va se faire et qu'est-ce qu'on va rencontrer comme aventure et accident sur la route, je sais pas du tout, quoi. On verra bien.
Que tienen las flores llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Me Merci Damien Manivelle, on se quitte avec cette Llorona, celle qui pleure et que chante votre groupe d'adolescents sur la plage. Lille est sortie en salle ce mercredi. Vous écoutez Plan Large France Culture et c'est à présent dans le monde des illusions que nous vous emmenons, celle qu'entretient auprès de plusieurs femmes un homme brésilien, moins qu'il ne soit argentin. Il s'appelle Alexandre, mais aussi Ricardo, Richard ou Daniel. Il est ingénieur chez Peugeot, chirurgien de haut vol ou pilote d'avion, à vrai dire. Tout dépend d'avec qui il est. Sonia Kronlund, excellente productrice des Pieds sur Terre sur France Culture, est partie en réalisatrice de cinéma sur les traces de cet homme aux mille visages, endossant la panoplie d'une véritable enquêtrice, interrogeant ses victimes, embauchant d'improbables détectives privés polonais, retrouvant ses origines et premières escroqueries dans sa favela brésilienne pour inventer une forme de film extrêmement original qui, tout documentaire qu'elle soit, flirte en permanence avec la fiction, comme s'il fallait en passer par là pour affronter l'homme qu'elle traque sur son propre terrain. C'est son deuxième long métrage après le portrait du déjà improbable et volontiers affabulateur cinéaste afghan Salim Shaheen, qui était Nothing Wood, un film sorti en 2017, l'année précisément où l'homme aux mille visages est entré dans sa vie.
Il s'appelait Daniel, il était médecin dans l'armée, il était argentin. Alors moi, ça m'a beaucoup charmée puisque je connais l'Argentine et j'ai tout de suite reconnu son accent. Sa mère était espagnole. Donc ça a vraiment fait partie des choses qui m'ont beaucoup charmée chez lui, qui viennent de Buenos Aires.
Je l'ai rencontré dans un café brésilien à Paris. Et là, je m'assois en face de lui et on commence à parler. Il m'a dit qu'il s'appelait Ricardo, qu'il était ingénieur chez Peugeot et qu'il était brésilien.
Bonjour Sonia Kronlund.
Bonjour.
On a l'habitude d'entendre votre voix sur cette chaîne, d'habitude vous êtes de l'autre côté du micro, mais en l'occurrence cet homme aux mille visages n'est pas complètement étranger aux pieds sur terre, puisqu'il y a eu un pied sur terre, je crois que c'était en 2017, sur cette histoire. Est-ce que déjà, en l'écoutant cette histoire, vous avez commencé à vous dire ça serait pas mal qu'il y ait des images aussi dessus?
Pas tout de suite, non, je ne me suis pas dit ça tout de suite. C'est vraiment une de ces histoires qui vous arrivent une fois dans une vie de productrice ou journaliste, ou appelez ça comme vous voulez, qui m'est arrivée. Je l'ai tournée, enregistrée assez rapidement et diffusée assez rapidement. Et c'est plutôt par la suite, en restant en contact avec celle que j'ai appelée Marianne, qu'en fait, elle a commencé à m'envoyer des images. Beaucoup d'images, beaucoup de petits films vidéo, beaucoup de montages, beaucoup de Photoshop qu'elle avait reçus et que j'ai commencé à comprendre, à saisir la dimension visuelle de cette aventure déplaisante qui lui était arrivée.
Et c'est une des grandes questions du film, précisément, c'est qu'est-ce qu'on montre ? En l'occurrence, première question, est-ce qu'on va le montrer ou pas, ce Ricardo ou Alexandre ou Daniel ?
Il y a la question de est-ce qu'on va le montrer, et il y a aussi celle de est-ce qu'on va dire qu'on le montre ou pas. Mais donc, effectivement, le film est construit autour d'une forme de suspense sur la question de savoir si on montre son visage ou pas, qui est quand même un acte à plein d'égards, relativement audacieux, au minimum, risqué, mais aussi qui m'a semblé à un moment donné assez indispensable, malgré les risques divers encourus, à la fois au regard des femmes qui ont accepté de montrer leur visage, de raconter leur histoire, de dévoiler pour certaines des humiliations, de vaincre la peur, etc. Ça m'a semblé assez difficile de faire un film avec des femmes qui témoignent face caméra et un gars flouté. Mais après, au montage, parce que c'est comme un film de montage, enfin, c'est un récit qui est construit au montage, on a dramatisé ce dévoilement en fait, cette espèce de outing de son visage.
Vous le dramatisez précisément en faisant partager vos réflexions au spectateur. C'est-à-dire, le spectateur commence à le voir flouté, donc se demande mais pourquoi est-ce qu'il est flouté, et ça devient une interrogation du film. On pourrait se poser la même question sur votre présence. À l'image, on se demande pourquoi est-ce que vous êtes là, vous auriez pu être complètement absente, et finalement on se demande si un des enjeux du film, c'est pas de vous mettre dans le même cadre que lui.
Oui, enfin, j'avais déjà fait ça dans mon film précédent, à la fois, c'est une facilité narrative qui me permet d'accompagner le spectateur, de me mettre aussi un peu, j'ai pas envie de dire au niveau, mais d'avoir une certaine humilité dans mon apparence physique. J'ai l'air un peu con, voilà, on voit mes rides, je me montre pas sous mon jour le plus beau. Et ça permet aussi de pas avoir une sorte de surplomb sur les personnages. Et puis, de la même manière, j'ai pensé que c'était une manière de donner le change à la fois par rapport aux femmes, etc. Après, dans la scène où je le rencontre, puisque nous y sommes, ça devient un moment un peu de cinéma vérité dans lequel je joue un personnage qui est aussi celui du spectateur. Mais ça fait 7 ans que j'enquête sur cette histoire, donc oui, en effet, mon visage est très présent dans le cadre avec lui. Je suis tout d'un coup quelqu'un qui regarde un homme mentir, qui sait qu'il ment, et je suis au spectacle finalement.
Alors, on y reviendra à cette dernière séquence, mais vous aviez effectivement déjà joué un personnage dans votre film précédent. Alors, c'était un personnage un peu pétochard qui se retrouvait dans des situations dangereuses, compliquées. Là, à nouveau, vous vous mettez en danger. Comment est-ce que vous avez pensé ce personnage? Parce que c'est Sonia Kronlund, mais c'est pas complètement Sonia Kronlund, c'est la Sonia voilà. Kronlund du film.
Oui, c'est ce que ma collaboratrice Adila Benedjaizou appelle, c'est mon clown. C'est-à-dire que c'est un peu aussi quelqu'un de peureux, mais en même temps qui y va, et ça c'est vraiment moi, c'est-à-dire pourquoi diable me retrouve-je dans ces galères, je sais pas en fait. Après je peux vous produire du discours après coup, mais c'est comme ça que ça s'est passé, et le fait de me mettre en scène, ça m'a semblé plus cinématographique à ce moment-là, et plus intéressant et visuellement et dramatiquement.
D'autant que dès le début, vous vous mettez effectivement au même niveau que ces femmes, vous vous construisez presque en victime potentielle de cet homme que vous auriez pu rencontrer. Vous en avez rencontré d'autres dans des situations moins dramatiques et spectaculaires en même temps, mais dès le début, vous vous posez comme ça. J'aurais pu être l'une d'elles.
D'abord, quand vous avez un projet, on vous demande souvent pourquoi est-ce que ça vous intéresse. En vrai, au début, je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse tant que ça. Vous voyez, pourquoi est-ce que vous vous intéressez au cinéma? C'est... Voilà. Et puis vous cherchez, vous réfléchissez, et finalement, je me suis aperçue que ça correspondait quand même à quelques aventures qui m'étaient arrivées. Mais surtout, ce que j'ai compris après coup, pas du tout sur le moment, c'est que c'est un projet que j'ai commencé en 2017. Comme vous avez dit, alors, mais qu'est-ce que c'est 2017? 2017, c'est MeToo. Et en fait, on va construire elle et moi, de manière un peu différente, mais quand même une sorte de cheminement qui est notre petit MeToo, enfin qui est notre réponse, ma réponse à une forme de dévoilement cinématographique, d'outing, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais voilà, qui est notre proposition de réponse à une prise de conscience collective en fait.
Oui, on voit presque une déconstruction se produire qui interroge sur le besoin de fiction qu'on a dans la relation amoureuse, d'auto-aveuglement aussi, parfois pour qu'une histoire simplement puisse exister.
Oui. Et puis c'est aussi, si vous voulez, ce qui nous lie, c'est-à-dire en fait ce qui fait la base de nos conversations, de nos relations, c'est-à-dire voilà, vous m'invitez dans votre émission, je vous crois, les gens disent des choses, on se croit, enfin c'est le pacte qui est à la base de toutes nos relations, et des relations amoureuses sans doute encore plus. Alors est-ce que c'est un besoin de croire? J'en sais rien, les gens se croient quoi.
Oui, et le spectateur croit à ce qu'il voit. Oui. Or dans ce qu'on voit dans le film, c'est la réalité, mais c'est aussi Absolument. Une réalité qui est jouée par moment, puisque certaines des femmes qu'on va voir à l'écran sont jouées par des actrices. Mais le spectateur, là, pour le coup, est incapable de déceler quand est-ce que c'est la vraie personne et quand est-ce que c'est l'actrice. Pourquoi est-ce que vous avez voulu non pas entretenir ce trouble, mais mettre au même niveau le vrai, le faux, le joué
Déjà, en faisant un deuxième film, je me suis aperçue, vous voyez, quand vous avez 100 heures de rush et que vous en tirez 1h30, c'était 150 sur mon film précédent, il y a quand même une sélection dans le réel qui est un choix, qui n'est pas une manipulation, mais vous allez choisir de rendre certains personnages plus beaux, d'autres moins, etc. Donc, il y a aussi une part d'imposture et de jeu dans la réalisation. Puis alors, diriger des comédiens, comme j'ai fait. Donc, pour rappeler le principe, afin de protéger les vraies femmes et les vraies victimes, j'ai mis en place une sorte de système de brouillage où il y a une comédienne, 2 non-professionnels et 3 vraies femmes. Et en fait, on ne sait pas, quand on voit le film, qui est vrai et qui est faux. Et d'ailleurs, c'était assez marrant, à la sortie des avant-premières, je demande comme ça un peu, à votre avis, qui est l'unique comédienne ? Les gens se trompent tous. Et alors, la vraie fille est super contente, parce que tout le monde vient la voir en disant « Ah, t'as drôlement bien joué », etc. Mais tout ça, c'est aussi une manière de douter de mon rôle de réalisatrice. C'est-à-dire que c'est aussi du jeu, c'est, il faut rester un peu droit dans ses bottes, mais voilà, la limite est ténue, disons, la frontière est ténue entre la réalisation et l'imposture.
Oui, et puis il y a aussi beaucoup de mise en scène, pour le coup, dans ce film, ne serait-ce que le choix des lieux où vous faites parler ces femmes, quand c'est dans les jardins du Sacré-Cœur, entouré de tourtereaux et de touristes, c'est un choix, évidemment.
Disons que c'est un choix qui correspond à l'imaginaire de cet homme, qui est finalement, c'est un touriste. Il est arrivé du Brésil depuis pas très longtemps, il a un imaginaire de carte postale. Donc il va donner rendez-vous pour un premier rendez-vous au Sacré-Cœur, il emmène les femmes sur les Champs-Élysées. Donc en fait, visuellement, j'ai essayé de recréer une sorte de Paris de carte postale pour qu'on comprenne un peu dans quel imaginaire il se trouve, et il les plonge, ces femmes.
Enfin, mes amis me disaient quand même, ce gars est génial, et tout le monde l'aimait beaucoup, en fait.
Ah ouais. Et ta famille aussi ?
Oui, ma famille, mes parents, mes amis, des gens très différents les uns des autres, et à chaque fois, quand je leur présentais, ils étaient vraiment emballés, quoi.
Mi corazón sufre y se llena de enojo.
On s'est donné un rendez-vous, là, au métro à Anvers. Et on est monté à Sacré-Cœur. Il m'a dit, je vais me marier ici. Bah, il a dit en rigolant, peut-être que c'était une blague, mais... Vous voyez, c'était sa méthode d'approche.
Je vous montrer même des images là, de films pour illustrer cet imaginaire. Il y a cette très belle scène de Leslie Caron et de Gene Kelly qui dansent sur les quais dans un Américain à Paris. C'est quelqu'un qui vit, en fait, dans un film et qui entraîne les gens dans un film.
Oui, il a vraiment un imaginaire cinématographique parce que c'est à la fois un acteur, c'est un scénariste, c'est un metteur en scène. Et en fait, quand on a fait le montage, on a passé environ 2 mois à faire une version du montage où chaque scène, où chaque mensonge qu'il proférait était illustré par la scène de cinéma dans laquelle il pouvait l'avoir puisé. Et donc, on avait toute un ours, comme on dit, avec son imaginaire cinématographique. Il y avait une scène de Altman, le docteur T et toutes ses femmes. Il y avait alors il en reste un Américain à Paris, il en reste les chariots de feu, mais on a fait toute une version comme ça pour montrer à quel point il puisait dans un imaginaire cinématographique, parfois assez cliché. Et les chirurgiens du thorax, on est allé prendre une scène d'urgence, mais on avait vraiment l'impression que c'était qu'il l'avait prise directement là-dedans.
Oui, mais parce qu'il est aussi en prise avec l'imaginaire général de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde vit ou fantasme sa vie comme étant dans un film. En fait, c'est quelqu'un qui entraîne les femmes dans sa fiction, comme Gilles Deleuze disait que la pire chose, c'est d'être entraîné dans le rêve d'une jeune fille. Là, ce sont des jeunes femmes qui sont entraînées dans le rêve cinématographique d'un homme.
Oui, oui, et puis qui y vont, comme on y va tous, parce que ça fait partie de nos fantasmes collectifs, ouais, certainement.
Est-ce que c'est vrai que son film préféré, c'est Attrape-moi si tu peux de Spielberg ? Non seulement ça, mais qu'en plus, il le montrait à ses victimes comme si lui-même voulait se faire attraper.
Oui, oui, c'est complètement vrai. Il le montre à 2 de ses femmes, à Marianne et à, je crois, Cassia. On le regarde, c'est mon film préféré, etc. Mais n'oubliez pas que ce film, qui est tiré d'une histoire vraie, d'ailleurs, qui est celle de Frank Abagnale, finit très bien. Parce que le gars, il est recruté par le FBI pour chasser lui-même les escrocs et les menteurs. Donc, c'est un film avec une happy end, qui est très amusant. La fin est très amusante. Et elle correspond à ce qui s'est passé, plus ou moins, je crois, d'ailleurs.
Alors pour réussir à l'attraper, cet homme, même physiquement parlant, sans dévoiler trop votre film, il fallait que vous-même vous l'entraîniez dans une fiction.
Ouais, c'est pareil, ça s'est passé sans que je réfléchisse trop, enfin, en fait, de manière un peu opportuniste. J'avais très envie de le rencontrer, d'abord parce qu'il fallait une fin au film, et puis parce que tout l'enquête tendait vers ça, et j'ai pris ce que je trouvais. C'est-à-dire, le seul petit élément vrai que j'ai trouvé sur lui, c'était le fait qu'il courait des marathons. Ça, c'était vraiment, j'avais des photos sur un podium, etc. À partir de là, j'ai engagé un détective privé, que j'ai trouvé évidemment un personnage de cinéma qui se compare à John Wayne, etc. Et puis, petit à petit, effectivement, je vais le rencontrer et le prendre en quelque sorte à son propre piège. C'est pas très méchant ce que je lui fais, mais c'était étonnant d'abord que ça ait marché, qu'il ait cru, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voulez participer à un portal? Oui, bien sûr, tout de suite, no problem. Ah bon, d'accord. Et puis que ça devienne une scène qui a été, dont la finalité un peu humoristique est très construite au montage, en fait. Sur le moment, ça ne nous a pas forcément fait rire.
Oui, parce que ça met aussi en jeu la surpuissance qui peut être celle de la caméra, celle de là ou du cinéaste en général. Ça m'a beaucoup fait penser au film de Christine Angot, que vous avez peut-être vu, Une famille, avec cette fameuse scène du pied dans la porte. Et effectivement, on se demande au nom de quoi peut-on filmer quelqu'un contre son gré, Christine Angot, ou filmer quelqu'un malgré lui, votre film.
Oui, c'est je dois dire que c'est une décision qu'on a prise pour plusieurs raisons et qu'on assume malgré les risques qu'elle comprend. En l'occurrence, je pense que c'est une forme de réparation, encore une fois, légère, c'est-à-dire que on a pris aussi des précautions pour que son visage n'apparaisse dans aucun matériel publicitaire, dans aucune bande-annonce, etc. Le film ne va pas sortir dans la ville où il habite. Donc en fait, voilà, il y a un truc un petit peu, une sorte d'équilibre. Mais c'est aussi ça, MeToo, d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a un Philippe Mangeot, qui est un intellectuel, on peut dire, qui a fait cette comparaison entre le film d'Angot et la présence de deux avocates. Et il explique bien dans un post de son fameux Instagram le chemin qui a été parcouru depuis Actob, dont il est un des fondateurs, où on hésitait à outer les gens, etc. Et maintenant, où on montre le visage des gens et on y va, quoi.
D'ailleurs, il y a deux scènes semblables au-delà de ça dans le film de Christine Angot et dans le vôtre. C'est précisément la rencontre avec l'avocat qui va dire « Mais oui, mais peut-être que pour le bien général, effectivement, ces scènes peuvent rester. »
Oui, pour le bien général ou pour le bien particulier, je ne sais pas encore. C'est peut-être un peu présomptueux pour moi, mais oui.
En tout cas, c'est plaidable même d'un point de vue juridique.
Oui, c'est plaidable, mais ce n'est pas sûr qu'on gagne, ce n'est pas sûr qu'on perde, on ne sait pas combien, etc. On a bien réfléchi, on a pris des concepts. C'est un risque, mais je pense que l'époque accepte ça. Et il y a même des gens qui vont voir ce film et qui me trouvent beaucoup trop gentil avec le gars. C'est-à-dire qu'en fait, selon où vous vous situez dans une sorte de champ politique, vous appréciez mon geste plus ou moins. Mais il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup trop sympa.
Une autre réparation, en tout cas, je pense très importante pour ces femmes, c'est de les avoir mises ensemble dans ce film, puisque sa stratégie à lui, c'est de les isoler et de les mettre dans des mondes parallèles qui jamais ne doivent se côtoyer. Et vous, vous cassez ces frontières.
Et puis c'est en l'occurrence, une belle démarche collective qui part quand même il y a 7 ans où 2 d'entre elles ne voulaient même pas me prendre au téléphone, tellement elles avaient peur ou honte, jusqu'à la semaine dernière, on a fait une avant-première où elles sont toutes venues sur scène. C'est-à-dire qu'un chemin dont je suis assez heureuse a été parcouru. Elles aiment bien le film, elles trouvent que c'est une bonne distance. Enfin voilà, il leur va à peu près. Et donc, s'il y a bien une chose dont je suis fière, c'est de ça.
Alors, les questions de fabulateur, pas forcément jusqu'à l'escroquerie, mais enfin, sont toujours des questions qui vous ont intéressé. Voir encore Nothing Wood, où le metteur en scène que vous filmiez était assez inventif parfois par rapport à sa propre vie, à sa propre carrière. Est-ce que d'avoir fait ces deux films, avoir écrit ce livre aussi parallèlement, vous a fait progresser dans votre réflexion sur la vérité, le mensonge?
Oui, ça m'a fait un peu progresser, mais je change d'avis tous les jours. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, ça va sembler un peu prétentieux, mais au bout du compte, après avoir tellement réfléchi à dans quel cas on peut mentir, dans quel cas on peut pas mentir et tout, au fond, je pense que le mieux, ce serait de ne pas mentir du tout et de tendre vers, y compris pour faire plaisir aux gens, y compris pour se sortir d'une situation difficile. Voilà. Après, ça remet en cause toute la fiction, ça remet en cause les relations humaines, parce que quand on rencontre quelqu'un, on va se montrer sous son jour le plus positif. Au fond, on va mentir sur ses défauts, donc tout ça est très compliqué. Je n'ai que des questions et pas beaucoup de réponses.
C'est les questions qui sont toujours plus importantes et intéressantes que les réponses. Alors, dernière question, est-ce que avec ce film qui parfois flirte avec la fiction, ça vous a donné envie de fiction pure ?
En tout cas, diriger des comédiennes professionnelles ou pas, ça m'a beaucoup intéressée. Et alors, j'ai découvert avec stupeur que vous dites à quelqu'un de faire quelque chose et la personne le fait. Ou bien de dire quelque chose et il répète ce que vous lui avez dit. Enfin, vraiment, ça fait tellement d'années qu'on travaille dans le documentaire, sur la parole, etc. Ça m'a un peu scotché. Et je comprends quand même le pouvoir que c'est, enfin, voilà, et ses dérives potentielles, que c'est d'être un réalisateur ou une réalisatrice. Et oui, ça m'a bien tenté.
Eh ben merci beaucoup, Sonia Kounioun. On va regarder ce que vous ferez ensuite. L'homme aux mille visages de Sonia Kronlund est en salle depuis ce mercredi. Le livre du même nom, écrit en parallèle du montage de son film, est paru aux éditions Grasset. Quant au Pied sur Terre, faut-il le dire, c'est à retrouver tous les jours de la semaine à 13h30 et en podcast sur France Culture. Vous écoutez précisément France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec pour commencer quelques autres sorties de cette semaine.
Je retire juste les rubans.
Qu'est-ce que c'est ?
Vous n'avez pas le mode d'emploi par hasard de...
Moi, je veux bien le faire. Hein.
C'est en 1911, école 45. C'était une arme militaire à l'origine.
Il est fonctionnel.
Don't shoot. Don't shoot at my documentaries. Don't shoot, please. What's your name?
We are looking forward to meet you and talk about your way of surviving here.
Citizens of America.
The so-called Western Forces of Texas and California.
God bless America.
Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Descendez de mon camion!
Monsieur, on y va!
J'appelle la police!
C'est in Hollywood.
Ik kom snel terug. Beloofd.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, des machines rétives réparées par des bricoleurs qui, ce faisant, soignent des âmes tourmentées. C'est la machine à écrire et autres sources de tracas. Le très émouvant dernier volet, après Sur l'Adamant et Averroès et Rosa Parks, du triptyque que Nicolas Philibert a consacré au pôle psychiatrique de Paris-Centre. On recommandera parallèlement la lecture d'un livre, Images asilaires, le très éclairant essai sur les rapports entre l'asile psychiatrique et le cinéma que le chercheur belge Laurent Gilson vient de publier aux presses universitaires Saint-Louis à Bruxelles. On regrettera juste évidemment qu'il n'y ait pas inclus le dit triptyque ni la moindre des choses du même Nicolas Philibert. Une matone au bon cœur prise dans l'engrenage des arrangements mafieux, c'est Borgo, la rencontre d'Afsia Herzi et du thriller carcéral, le tout sous les yeux de Stéphane Demoustier pour un quatrième film à moitié réussi ou à moitié raté, c'est selon. L'exploration d'un territoire virtuel, celui d'un jeu vidéo post-apocalyptique par un trio de cinéastes gamers qui rencontrent de parfois inquiétants, mais bien souvent très touchants individus qui vivent des vies parallèles à la leur. C'est le passionnant, poétique et mélancolique Nits Island, l'île sans fin, encore une île, d'Ekiem Barbier, Guilhem Kos et Quentin Lelgouache, ou comment, en filmant le faux. Là encore, on entend le vrai, tout le contraire de fait du certes très efficace et spectaculaire Civil War d'Alex Garland, dont le titre trompeur dissimule, sous couvert de guerre civile aux États-Unis, la ressucée éteinte de plusieurs genres cinématographiques, un rien éculé, dont un qui fit florès aux États-Unis dans les années 80, le reporter de guerre tête brûlée en zone dangereuse, prétexte toujours confortable pour jouir du spectacle de la violence tout en affectant d'être du bon côté de la morale. Dans le genre road movie, on préférera, malgré l'abus un peu agaçant de gimmicks inutiles, la balade sauvage entre Pays-Bas et Pologne d'une préado et de sa mère borderline qu'il a kidnappée de son foyer. Ça s'appelle Le jour où j'ai rencontré ma mère, premier film en forme d'hommage au nouvel Hollywood de la néerlandaise néerlandaise Zahra Dwinger. Et puis, il y a aussi cet assez inclassable Marin des montagnes, un film signé Karim Aynouz, le réalisateur brésilien, comme son nom ne le dit pas, du Jeu de la Reine et auparavant de La vie invisible d'Eurydice Gusmão. S'il porte ce nom à consonance arabe, c'est parce que son père, qu'il n'a connu qu'à 20 ans, est algérien. Et c'est sur les traces de sa famille, d'Alger, un village reculé de Kabylie, mais aussi sur celle de l'esprit révolutionnaire des années 60 qu'il fit se rencontrer aux États-Unis son père algérien et sa mère brésilienne, que le cinéaste est parti en 2019. En résulte cet étonnant essai documentaire en forme de lettre à une mère décédée, de carnet de route qui fait feu d'images de toute nature et qui emprunte souvent à la logique du rêve. Karim Aynouz.
Je crois que c'est la première fois que je fais un film où le rôle de l'inconscient, il vient en premier plan. Et je crois que pour des raisons différentes, d'un côté, parce que ce n'était pas possible de raconter cette histoire avec seulement les conscients, parce qu'il avait de la mémoire, il avait des choses qui étaient des ressentis, qui n'étaient pas vécues, il avait des fantasmes qui ne sont pas concrets. Alors pour moi, c'était très important d'explorer un peu une stratégie de raconter une histoire où l'inconscient, il était là d'une façon très forte. Et ça m'a donné une liberté de narration et aussi une liberté visuelle où j'essayais de traduire quelles étaient les sensations qui dépassaient l'image analogique, disons, pas analogique dans le sens argentique, mais analogique du monde, et quelles étaient les sensations qui dépassaient même le cinéma et l'oralité. Et je crois que pour moi, c'était une aventure qui m'a beaucoup marqué comme réalisateur, où j'ai beaucoup appris. Et c'est très drôle parce qu'après ces films-là, j'ai fait des longs-métrages de fiction. Et le dernier là que je suis en train de finir, il a plein d'images qui sont des images inspirées par cette, entre guillemets, stratégie de storytelling qui est dans les marins de montagne. Mais honnêtement, je crois que ce qui a fait que ces images ont commencé à habiter ces films, c'était la question de la mémoire. Et les traces des mémoires comme ça qui me venaient tout le temps quand j'étais là-bas. Parce que je crois que c'est une espèce de... La mémoire m'a permis de comprendre le présent, ça m'a permis aussi de regarder qu'est-ce que je cherchais. Et pour moi, c'était une aventure professionnelle qui était merveilleuse. Et je trouve que ça m'a permis aussi de me reconnecter avec les cinémas tout au début de ma vie, quand j'ai commencé à rêver de faire du cinéma. Les cinémas qui m'ont beaucoup interpellé, qui m'ont beaucoup intéressé, c'était plutôt le cinéma expérimental qui se faisait en Europe. Je me souviens, c'était Dulac. Aux États-Unis, c'était le cinéma expérimental des années 60, 70. Et moi, j'ai toujours voulu faire plus de ça, mais la narration, c'est comme si la narration, elle était une ennemie de ce genre de stratégie narrative. Et dans ces films, ce que je fais, c'est que j'ai quand même révisité cette période de ma vie où j'étais fasciné par la préhistoire du cinéma, quoi, avant que le cinéma devienne complètement narratif. Parce que j'ai toujours rêvé de faire un cinéma comme ça, mais c'était très difficile de le faire commercialement, quoi. Et là, avec le Marin de Montagne, j'ai pu révisiter un cinéma qui m'a donné envie de faire le cinéma tout au début.
Marin des montagnes de Karim Aynouz est sorti en salle lui aussi ce mercredi. Quant au film en finition dont il parle, c'est Motel Destino. Il sera en compétition pour la Palme d'Or du prochain Festival de Cannes. On aura donc l'occasion d'en parler, on l'espère avec lui, très prochainement sur cette antenne. Quelques annonces encore côté festival pour rencontrer de jeunes cinéastes. C'est du 25 au 29 avril au cinéma Le Méliès à Montreuil. La 11e édition de 7e Lune, qui offre aussi une carte blanche à la toujours jeune Catherine Breillat et invite de jeunes artistes palestiniens à présenter leurs courts-métrages. Des courts-métrages, il y en a aussi à voir au studio des Ursulines à Paris, c'est du 25 au 28 avril, où le festival Format Court en propose 19 en compétition. À la ferme du Buisson à Noisiel, enfin, un nouveau festival théâtre et cinéma explorera les rapports féconds entre ces deux formes d'art du 24 au 27 avril. Côté rétrospective, si vous êtes nantais, courez au cinématographe voir en copie restaurée les films de Jean Eustache, et si vous ne l'êtes pas, procurez-vous de toute urgence. Il est enfin sorti après des années, que dis-je, des dizaines d'années d'attente, le coffret DVD et Blu-ray de l'intégrale des films de Jean Eustache. C'est de toute beauté et c'est édité par Carlotta. Si vous êtes dame combative des luttes collectives et des films féministes, c'est ce que propose le cycle Contre-champ à la Cinémathèque du documentaire de la BPI au Centre Pompidou à Paris. C'est jusqu'au 4 juillet avec la complicité active du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et juste à côté, le Centre Pompidou propose également du 24 au 28 avril de découvrir en sa présence des films inédits du non moins combatif artiste et cinéaste britannico-ghanéen John Akomfra, qui dans ses essais documentaires interroge la mémoire, le post-colonialisme, les diasporas, l'immigration et l'identité culturelle, ce que faisait aussi au début des années 70 ce film-là.
Yeah, and then one day I discovered I had a BA, which is that second class honors, and I had to wear a big gown with some funny hat, with the president giving his speech about Nigerian prosperity and bullshit, and how we would be the leaders of tomorrow, meaning if you talk too loud, we'll club your head. I took my chance and I went to go see America, Democracy, George Washington, Abraham Lincoln, Jefferson.
Cet homme qui, face caméra, raconte comment il a quitté son Nigeria natal en pleine guerre civile pour aller découvrir la démocratie américaine. Il s'appelle Paul Eyamzie Okpokam, mais dans le film, il joue aussi son double Gabriel. On est en 1968, dans le San Francisco, sous tension des hippies et des luttes étudiantes, des Black Panthers et des répressions policières. On est aussi, là encore, dans un mélange indécidable de documentaires et de fiction, où apparaît même Jack Nance, futur Eraserhead, et Pete Martel du Twin Peaks de David Lynch, et dans un film qui aurait dû sortir en 1971, si sa dimension hautement inflammable ne l'avait écarté des écrans. Ça s'appelle Bushman, c'est signé David Schickele, et ce film inédit a enfin trouvé le chemin des salles grâce à Milestone Film aux États-Unis et à Malavida en France. Alors, où placer ce film dans l'histoire du cinéma indépendant américain, Sophie Catherine Gallet, quelque part entre Robert Kramer, Charles Burnett et Haile Gerima?
Oui, un peu entre tous ces cinéastes, le film s'ouvre sur un de ces rares plans de cinéma d'une simplicité totale et qui pourtant happe aussitôt. Une route en montée, un homme pieds nus et mains dans les poches qui avance, le bitume, le ciel et le bas-côté de la route qui se fondent dans un camailleux du blanc au gris. D'abord le silence, puis quelques percussions, des chants nigérians rapidement mixés à une musique classique occidentale. Le ton est donné et le spectateur aussitôt embarqué. Embarqué aux côtés de Gabriel, jeune homme d'origine nigérienne qui a quitté donc son pays en proie à une guerre civile pour enseigner grâce à un visa à l'université de San Francisco. Visa qui arrive cependant à expiration et tout l'enjeu se trouve bien entendu dans cette fin annoncée en regard des risques que court Gabriel s'il rentre au Nigeria. Le film a cependant l'intelligence de ne pas mettre cet enjeu au premier plan, le laissant planer en filigrane et en laissant planer cette menace, pour se concentrer sur le quotidien de Gabriel durant ce qu'on imagine un été dans le San Francisco de 68. Il y a là un parfum de cinéma vérité dans ces images prises à la volée, un parfum d'économie de moyens, de liberté dans le regard posé sur Gabriel et ceux qu'il rencontre. Un parfum de récits d'initiation menés tambour battant, caméra au point dans les rues avec parfois des regards caméra dépassants, des coupes de plans abruptes. Un parfum d'amour du cinéma et de sa grammaire par la liberté qui infuse les cadres et le montage, notamment dans une scène où Gabriel et sa compagne Alma sont dans un bar vide. La chanson Respect d'Aretha Franklin passe, Alma danse et le réalisateur s'attarde sur des détails montés comme des fragments. Une main qui se tord, des pieds qui se rejoignent, puis une partie du visage, des yeux fermés, en alternant avec quelques plans larges, incarnant un moment suspendu, le temps d'un été, dans une période où la lutte fait rage, où le danger pour les Afro-Américains est partout. Car les luttes qui se développent alors aux États-Unis sont centrales, tout comme la question de l'identité, et par extension de la langue, comme le raconte cet extrait, où Alma explique à Gabriel qu'il n'a pas l'accent noir, l'accent d'ici, et qu'elle essaye de lui donner un cours.
True, but I had to learn this the same way you'd have to learn French. You can't talk black. Say what's happening, baby?
What's happening, baby?
What's happening, baby?
What's happening, baby?
Happening.
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 What's going on?
What's going on?
Going on.
Going on.
Going on.
Going on.
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 Say shit.
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 Shit. Shit.
Car l'identité de Gabriel est différente hein, de celle des Afro-Américains nés aux États-Unis, lui qui partage avec eux la couleur de peau, mais dont les préoccupations politiques le ramènent avant tout à son pays, en proie à une guerre civile, elle-même fruit de la colonisation anglaise. Et tout comme il ne parle pas avec le bon accent, il se refuse aussi à devenir autre, se promenant dans la ville avec sa flûte et ses chants traditionnels. Pas assez politisé pour ses amis Afro-Américains, il devient pourtant une attraction d'une nuit pour une jeune fille blanche, étudiante en sociologie, qui l'emmène dans un bar Afro-Américain, où ils sont accueillis avec dédain par la serveuse. Cette identité qui n'est jamais la bonne, qui n'est jamais au bon endroit, rejoint finalement cette sensation de cinéma-vérité qui oscille entre les identités lui aussi. Ni documentaire, ni fiction, chacun de ces deux genres sont renforcés l'un par l'autre, et notamment par l'omniprésence de la voix-off de Gabriel, qui narre en superposition aux images de San Francisco, aux images des ghettos aussi, son propre parcours, ses observations sur la société qu'il découvre, et surtout son lien à son pays, le Nigeria. À l'instar donc de cette identité multiple, le film, lui aussi, devient peu à peu multiple, interposant entre deux moments de film des photos, parfois d'enfants dans la brousse, dans les villages nigérians, parfois des photos de la guerre au Nigeria, d'exécutions, ou encore en associant des sons a priori disparates. Entre violence et poésie, ce mélange donne alors naissance à véritablement la mise en scène de l'éclatement d'une conscience de soi. L'alliance du documentaire et de la fiction deviennent encore plus concrets et de manière d'autant plus brutale lorsque le film prend un tour inattendu dans sa dernière partie. Le destin de l'acteur et du personnage dont les contours et les séparations étaient déjà relativement flous, Paul Eyamdié Opkopkam, l'acteur qui joue Gabriel, partageait déjà donc avec son double de fiction son parcours du Nigeria à San Francisco, sa position de professeur à l'université et la problématique du visa. Mais ce qui devait être de l'ordre de la pure fiction dans le film se retrouve soudainement projeté dans une réalité on ne peut plus amère. Alors je me permettrai de pas dévoiler ce dont il retourne exactement, tant cette découverte fait aussi hein, partie de l'expérience du film. Mais le réalisateur parvient à transformer cette soudaine confrontation entre le réel et la fiction de nouveau en un langage cinématographique réjouissant, en fondant jusqu'à s'y perdre totalement les lignes du réel et de l'imaginaire. Et nous reste alors une atmosphère, une chaleur, le bitume, un regard faussement naïf sur les États-Unis qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le procédé à l'œuvre dans les lettres persanes de Montesquieu. Un regard qui met en exergue l'implacable évidence du racisme systémique, fléau alors comme aujourd'hui aux États-Unis.
Sophie Catherine Gallet, Bushman de David Chiqueleux, ce sera en salle mercredi prochain. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Sébastien Royer et Noé Chabanne. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.